Donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Yves-Marie Abraham pour la première audition de la Commission internationale de génération écologie. Voilà, donc Yves-Marie est professeur à HEC Montréal, professeur de sociologie de l'économie et chercheur sur le sujet de la décroissance. Il est auteur notamment de « Guérir du mal de l'infini » qui a été publié en 2019. Il va ce soir nous parler du mouvement pour la décroissance au Québec, de comment ce mouvement est né, de son développement actuel, autant culturel, intellectuel que politique. Merci Yves-Marie d'avoir accepté de répondre à nos questions et de présenter le mouvement pour la décroissance au Québec. Je te passe la parole.
Merci beaucoup Cécile et merci donc de cette invitation qui m'a fait bien plaisir, même si je suis dans une position particulière puisque mon accent trahit le fait que je suis d'origine française et que donc je me retrouve à parler d'un mouvement québécois. Mais ça fait 20 ans maintenant que je suis au Québec, puis j'ai été associé au début du mouvement, donc bon, c'est pas complètement incongru que j'en parle. Et surtout, je fais partie de ceux qui ont le privilège d'être pratiquement payé pour ça, puisque en tant que prof, je peux consacrer tout mon temps à la question de la décroissance que ne peuvent pas faire aussi facilement mes camarades du mouvement. Donc, vous voyez, j'ai été très, très prudent dans mon titre. J'ai mis un aperçu partiel et partial. Forcément, en fait, c'est un exercice qui est plus difficile qu'il en avait l'air, que d'essayer de raconter un peu de quoi ce mouvement est constitué, comment il s'est constitué, d'où ma prudence. Peut-être qu'il y a un autre élément aussi à souligner avant de commencer, c'est que moi-même, quand j'étais en France, j'ignorais à peu près tout du Québec, et j'ignorais notamment un peu les ordres de grandeur. En fait, le Québec, ça doit être deux fois grand comme la France, mais par contre, c'est presque 10 fois moins d'habitants. En fait, on est à 8 millions 5, 8 millions 6 habitants au Québec. Et là-dessus, tout le monde ne parle pas français. Donc, en fait, on doit avoir quelque chose comme peut-être 7 millions de Québécois et Québécoises dont la langue maternelle est le français, peut-être probablement même en dessous. Donc, on est une toute petite population francophone au milieu d'une grande mer de population anglophone. Donc, même si le français est quand même une des langues officielles du Canada, il reste qu'en réalité, il est surtout parlé ici et puis dans quelques petits îlots dans le reste du Canada. Mais ça permet de... Je pense que c'est important comme mise en contexte initial. Je vais y aller donc en trois temps. Tout simple. D'abord, comment c'est parti, comment ça a démarré ce mouvement. En général, on met mouvement avec des guillemets d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas trop, même si le terme est adéquat. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes en France là-dessus, mais on hésite encore un peu. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que la décroissance, évidemment, pour nous, en fait, pour nous, notamment le groupe de ceux qui travaillent sur cette notion-là, plutôt en tant que chercheurs, comment est-ce qu'on répond à la question, c'est quoi la décroissance? J'essaierai de souligner peut-être les spécificités de notre compréhension de cette idée. Et puis, troisième point, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment se profile la suite de l'aventure décroissanciste au Québec, selon moi. Voilà. Alors, j'attaque tout de suite avec l'historique. Donc, en fait, c'est quelques jalons historiques. Donc, c'est là où je vais forcément être partiel et partial. Première proposition, peut-être on peut commencer en 2007, en fait, avec le lancement d'un manifeste qui était en rédaction déjà depuis plus d'un an par un petit collectif. Et ce lancement, il s'est déroulé dans le cadre d'un colloque dans une des principales universités québécoises qui s'appelle l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, donc au printemps 2007, colloque auquel j'avais été invité. Il m'avait repéré comme quelqu'un qui s'intéressait à la décroissance. Et le colloque a suffisamment bien fonctionné pour que dans la foulée, en fait, on se dise qu'il était peut-être temps de créer un mouvement québécois donc pour une décroissance conviviale. Donc voilà, ça s'est fait dans les semaines qui ont suivi ce colloque. Voilà peut-être le point de départ. Ce qu'on peut rajouter, c'est que ce manifeste, sa perspective était quand même très influencée par la décroissance à la française, on va dire. Donc, et c'est là où les liens d'affinité entre le Québec et la France sont importants. On était dans une perspective d'écologie politique, hein, pas du tout d'écologie expertocratique. Donc, et d'ailleurs, l'empreinte de Convivial souligne bien le fait qu'on se situe dans la perspective, plutôt une perspective illichienne par rapport à ces questions. Alors, les personnages importants dans cette histoire, je vais en souligner quelques-uns au fur et à mesure. Donc, ça, c'est le petit logo qu'on s'était fabriqué, le logo du MQDC. Personnage très important, Serge Mongeau, qui est toujours vivant aujourd'hui. Un très grand militant québécois de toujours, si j'ose dire, qui était un médecin, qui a renoncé à son travail de médecin pour s'organiser, s'investir dans l'organisation communautaire, le planning familial, etc. Donc pour faire un travail de terrain que ne lui permettait pas de faire son statut de médecin. Il s'est intéressé très rapidement, dès le début des années 70, en fait, à la simplicité volontaire. Et donc c'est par ce biais-là que lui est arrivé finalement à la décroissance. En fait, en faisant le constat que la logique de simplicité volontaire ne suffisait pas et qu'il fallait donner finalement une tournure beaucoup plus politique et collective au mouvement pour espérer avoir un impact sur la dynamique de nos sociétés. Donc, ce n'est pas du tout un hasard que ce soit lui qui soit un des signataires de ce manifeste. On peut aussi souligner le fait que Serge a été un des cofondateurs d'une maison d'édition qui s'appelle les éditions Éco-Société, qui est une maison d'édition absolument essentielle ici, puis je dirais même dans la francophonie, puisque tout ce qui s'est publié sur la décroissance s'est publié pratiquement chez eux, ici au Québec. On est diffusé aussi en France, mais donc ça, c'est vraiment un rôle absolument crucial de Serge dans cette affaire. Deuxième personnage important, Serge Mongeau, vous verrez, il a son article Wikipédia, donc il est quand même très, très connu. Par contre, un deuxième personnage qui n'est pas moins important, mais qui lui est vraiment quasiment inconnu, c'est Louis Marion, qui lui est un philosophe qui vivote concrètement, mais qui, par contre, sur le plan intellectuel, est tout à fait important. Parmi ses faits d'armes intellectuels, je dirais qu'il a, introduit beaucoup toute la tradition de la technocritique au Québec, et notamment, il a fait lire Anders, Gunther Anders, donc à pas mal de monde au Québec. C'est vraiment par lui que c'est arrivé. Et c'est en fait, à mon avis, un des principaux rédacteurs du manifeste pour une décroissance conviviale. Qu'est-ce qu'on peut dire en faveur de Louis par ailleurs? Il a écrit un livre que je vous suggère fortement, qui a été publié aux éditions Éco-Société et qui s'intitule « Comment exister encore ?» Je n'ai pas mis l'image de la couverture. « Comment exister encore ?» pour l'interrogation, sous-titre « Capital, technosciences et domination ». Bon, ça vous donne pas mal aussi la perspective générale de Louis et de ce fait la perspective générale du mouvement tel qu'il s'est constitué en 2007. Troisième personnage qu'il est intéressant de souligner, Marcel Sévigné, encore un autre barbu, qui lui est plutôt un militant anarchiste. C'est un des très grands militants québécois aussi. Aucune manifestation un peu sérieuse à Montréal ne se passe sans lui. On le croise partout. Mais c'est aussi quelqu'un qui a toujours été très, très impliqué dans des initiatives très concrètes. Et notamment, c'est un des maîtres d'œuvre de notre commun le plus connu et le plus prestigieux à Montréal, qui s'appelle le bâtiment 7. Donc Marcel est derrière l'émergence du bâtiment 7. Si vous ne connaissez pas le bâtiment 7, c'est à connaître. Vous trouverez pas mal de choses sur Internet. Notamment, Marcel fait tourner actuellement une épicerie communautaire autogérée avec beaucoup de succès. Mais Marcel fait aussi un travail intellectuel et il était un des auteurs de ce manifeste. Il y avait d'autres auteurs qui, eux, ne sont pas restés dans les milieux militants. Je pense notamment à Léo Brochier et Jacinthe Laforte. Donc voilà pour le point de départ. Qu'est-ce qu'on a trafiqué? Donc j'étais là aussi dès la réunion de fondation. On a fait beaucoup d'auto-formation au départ, puis des conférences publiques, puis quelques manifestations. Alors une des choses qu'on a faites à Montréal, donc on a un grand prix de Formule 1 tous les ans, depuis je ne sais pas combien d'années. Et donc on a essayé de s'attaquer à ce symbole-là, ce symbole de la Formule 1. Alors, vous voyez, ça, je ne sais pas si vous voyez la photo, elle est assez mauvaise, mais on s'est retrouvé à une cinquantaine dans les rues de Montréal à l'occasion de deux ou trois Grands Prix, je pense. Enfin, on a réussi à faire quand même pas mal de bruit à l'époque. Donc, des manifestations, quelques happenings dans le métro aussi. Et surtout, ce qu'on a... Peut-être la chose la plus intéressante, ça a été la production d'un journal qui s'appelait L'Objecteur de croissance, un journal papier, qui se diffusait quand même à 500-600 exemplaires. Donc, vu que c'était fait c'était vraiment bricolé, qu'on passait ça de la main à la main, c'était voilà, donc ça a sûrement joué un rôle dans l'émergence du mouvement. Deux débats cruciaux dans le mouvement, puis ça va être des choses que peut-être peuvent vous intéresser, ça m'intéressera aussi de voir comment vous positionnez par rapport à ça, mais est-ce que, le premier débat, est-ce qu'on s'engage nous-mêmes dans l'élaboration d'une initiative concrète, justement un commun, je ne sais pas, une monnaie locale par exemple, est-ce que... Et finalement, on avait décidé de ne pas le faire, de rester plutôt un mouvement de sensibilisation, de recherche et sensibilisation, et qui s'assurerait de faire des liens plutôt entre des initiatives concrètes existantes, en soulignant le fait qu'elles étaient très convergentes avec notre conception de la décroissance. Mais nous-mêmes, nous avons choisi finalement de ne pas mettre les mains à la pâte, en tout cas sur le terrain des initiatives concrètes. Autre débat qu'on a eu assez rapidement, est-ce qu'on essaye de créer un parti ou pas ? Et là, compte tenu de nos forces en partie, donc on a fait un peu de nécessité-vertu, mais on s'est dit que ce n'était peut-être pas la meilleure idée. On a plutôt tenté de créer une cellule au sein d'un parti, un parti de gauche au Québec, qui s'appelle Québec solidaire, qui à l'époque commençait à prendre de l'importance. Donc, pour essayer de faire progresser ces idées au sein de ce qu'on appelle donc QS, Québec pour Québec solidaire. C'est pas mal la direction qu'on a prise à l'époque, donc c'était l'autre grand débat. Par ailleurs, on a, dans un deuxième temps, on a eu aussi pas mal de liens, on a essayé de développer des liens avec le réseau de la simplicité volontaire au Québec, qui était quand même assez développé, et puis les initiatives de transition, les villes en transition, initiatives de transition, donc on a essayé de travailler avec eux aussi, donc ça c'était autour de 2010-2011. Voilà pour le premier jalon. Deuxième jalon important, la constitution du critique, le collectif de recherche interuniversitaire et transdisciplinaire sur les impasses de la croissance. Bon, ça nous permettait d'avoir un joli acronyme. Et qu'on a constitué parce qu'on s'est rendu compte qu'on était plusieurs universitaires dans le mouvement et que donc on avait peut-être un rôle à jouer plus précisément sur notre terrain de prédilection. Alors ça me permet de parler de deux autres personnes, un autre Français cette fois qui s'appelle Hervé Philippe qui n'est plus au Québec maintenant, qui vit dans le coin de pas très loin de Toulouse, qui fait partie d'ailleurs de l'Atécopole, les ateliers d'écologie politique là, dans lesquels sont impliqués pas mal de chercheurs aujourd'hui. Hervé Philippe a joué un rôle important. Lui, c'est un biochimiste de renom, un spécialiste de l'évolution, qui s'est beaucoup engagé dans le mouvement, qui a même sur le plan matériel, notre local était chez lui. Enfin bon, donc ça a été un personnage clé. Puis bon, c'était nous, le reste des chercheurs, on était plutôt des philosophes, sociologues. Lui, c'était donc, il venait des sciences de la nature, et donc il offrait un point de vue tout à fait complémentaire et essentiel. Autre personnage clé qui est toujours là dans le mouvement et plus que jamais, Andréa Lévy. donc militante socialiste de toujours. Elle est née dans ce milieu-là. Elle est co-rédactrice de la plus vieille revue de gauche canadienne. Alors là, on parle d'une revue anglophone qui s'appelle Canadian Dimension, qui est donc une très grande revue, très légitime dans les milieux de gauche. Et Andrea s'est intéressée peu à peu à la décroissance, notamment parce qu'elle a fait sa thèse de doctorat sur André Gorz, une thèse en histoire. Et donc, c'est une très bonne spécialiste de Gorz. Mais donc, ça vous donne là aussi un peu le type d'influence que nous avons reçu. Et puis le grand intérêt d'Andrea pour nous, c'est que elle est parfaitement francophone, mais elle est aussi d'origine anglophone. Et une des difficultés qu'on a au Québec, en tout cas à Montréal, c'est de faire le pont entre anglophone et francophone. Et donc on parle classiquement des deux solitudes au Québec, les Anglais et les Français, enfin les anglophones et francophones. Et donc les gens qui sont capables de faire les liens entre ces deux mondes-là sont très précieux, et Andrea en fait partie. Je reviendrai sur une autre de ses influences tout à l'heure. Alors voilà, donc on avait un petit groupe qui a fait un certain nombre de choses, donc des colloques. Alors moi, j'avais la chance d'être à HEC, donc d'avoir accès à toutes sortes de moyens. Donc on a pu en 2009 lancer un premier colloque international. Il y avait pas mal de Français qui étaient venus d'ailleurs, donc à HEC, qui a donné lieu à un premier bouquin, Décroissance versus développement durable, donc sur le débat entre les deux grandes perspectives, publié chez Éco-Société. On a aussi participé au troisième grand colloque international en fait sur la décroissance. Ça a pris une tournure un peu particulière, puisque finalement on devrait faire partie des grands colloques internationaux après Paris et Barcelone. Et puis finalement les choses n'ont pas forcément bien tourné à l'époque. Parce que, une des explications, c'est que on a fait ça donc avec des universitaires aussi anglophones qui venaient des deux grandes universités anglophones de Montréal, donc McGill et Concordia, et qui partageaient pas complètement nos idées en fait. Et ils étaient encore pas tout à fait prêts à défendre la décroissance telle que nous on la concevait. Ce qui fait que, au bout du compte, on a quand même fait ce colloque qui a été quand même un colloque tout à fait intéressant, mais on a perdu en quelque sorte notre label de colloque de décroissance international. Mais ça reste quand même, ça a été quand même un moment important, je pense, puisqu'on a réussi à embarquer les quatre universités dans l'opération. Le critique, par ailleurs, donc un an après, a fait son premier colloque à lui sur la question de l'extractivisme. Donc, on avait intitulé ça « Creuser jusqu'où ». Ça a donné lieu à diverses publications. On a sorti un bouquin qui s'appelle « Creuser jusqu'où », qui est en quelque sorte les actes du colloque. On a sorti aussi à peu près au même moment un dossier sur la décroissance où on avait plusieurs d'ailleurs camarades français qui ont contribué dans la grande revue de gauche, la grande revue intellectuelle de gauche québécoise, donc les Nouveaux Cahiers du Socialisme. Voilà pour quelques-unes de nos productions, nos contributions à l'époque, enfin, en tout cas pour ce qui concerne le critique. Troisième jalon. En 2013, donc, j'ai pu créer un cours sur la décroissance à HEC Montréal. Alors, j'ai l'air de mettre l'emphase sur mon propre travail, mais ce travail-là, il a été rendu possible par tout le travail collectif qui précédait en fait au sein du Critique et au sein du MQDC. En fait, je me suis formé moi-même grâce à ce mouvement et aux camarades qui le constituaient. Et j'ai été finalement capable d'élaborer un cours donc de 45 heures sur la décroissance dans un programme de deuxième cycle en innovation sociale. Donc la notion parapluie dont je me suis servi pour faire avancer cette idée au sein de la HEC, ça a été l'innovation sociale. Bon, le cours s'appelait... s'appelle toujours d'ailleurs la décroissance soutenable théorie et pratique, mais la notion d'innovation sociale m'a bien aidé, je dirais, à faire passer la pilule, on va dire, en interne à HEC. C'est un cours qui a bien fonctionné. Il s'est donné en 2013, il y a 10 ans, donc il y avait 12 étudiants dans la classe. C'est pas un cours obligatoire, donc c'est un cours qui pourrait ne pas se donner si personne ne veut le suivre. Et il va se donner cette année à peu près à 150 étudiants donc, de deuxième cycle donc, qui l'ont choisi. Alors, non, maintenant, on a réussi à faire une version du cours aussi au premier cycle. Enfin, au total, il y aura 150 étudiants qui l'auront suivi cette année à HEC. Alors, vous voyez, là aussi, on voit mes influences françaises, puisque je ne sais pas si vous le voyez, mais je choisis toujours pour mes cours une mascotte, et j'ai choisi donc les fameux Shadok comme mascotte de ce cours sur la décroissance, qui est une façon de... d'abord de mettre en image un peu l'idée de décroissance, la critique de la croissance, et puis aussi de souligner justement un peu les origines plutôt européennes et même quasi francophones de la décroissance. Donc ça, c'est le point de départ. Ça a eu toutes sortes de retombées. Alors parmi une des belles retombées, une des étudiantes qui a suivi ce cours. Ensuite, j'ai pu encadrer évidemment des mémoires de maîtrise, des recherches. Là, voilà un très bon mémoire sur le revenu de base analysé dans une perspective décroissanciste par Ambre Fourier, donc qui était une ancienne étudiante, qui est maintenant d'ailleurs membre de Polémos. Donc ça, c'est une retombée intellectuelle. On a aussi, avec mes étudiants, on a donné des cours à l'UPOP Montréal, l'Université populaire de Montréal, qui est une espèce de commun du savoir à Montréal, qui marche très bien, un très bel endroit. Donc on a donné à plusieurs un cours qui était donc une suite du cours que j'avais donné, donc avec mes propres étudiants. En 2016, on avait le Forum social mondial à Montréal, première fois que le Forum social mondial se déplaçait dans le Nord. Bon, et donc on m'avait contacté pour me demander si j'étais intéressé de parler de décroissance dans ce cadre-là. Et j'y suis allé avec une bande d'étudiants, donc vous en voyez un certain nombre qui sont là. Alors on nous donnait au départ vraiment une demi-journée dans les 10 jours, les 15 jours de l'événement. Et puis finalement, ces étudiants ont dit non, nous on veut finalement mettre en place des animations pour toute la semaine entière. Donc, et je pense que ça a été une des réussites d'ailleurs de ce Forum social mondial, que toutes ces activités, ces animations, ces conférences qui ont été organisées par ces étudiants sur la décroissance. Il n'y a pas que des étudiants, il y a notamment mon camarade Jérémy Boucher là, qui est avec nous ce soir, qui lui n'était pas étudiant, mais qui s'était greffé à cet événement. Donc voilà, ça fait partie des retombées. Il y en a d'autres. Bon, j'ai des étudiants maintenant qui sont passés par ce cours et qui sont engagés dans toutes sortes de choses plus ou moins proches de la décroissance, mais clairement qui sont des alliés pour le mouvement aujourd'hui. Alors justement, ce collectif d'étudiants qui avait pris en charge toute une série d'animations au FSM a décidé de continuer, et en 2016, alors même que le MQDC dont je parlais tout à l'heure était en train de ralentir en termes d'activité, Hervé Philippe que j'évoquais tout à l'heure était reparti en France, ce collectif a dit nous on va relancer en fait la machine politique, on va dire, de la décroissance, en créant le collectif décroissance conviviale au Québec. Donc ça, au départ, c'est vraiment une initiative notamment de ces étudiants et puis de Jérémy qui était dans le coup. Alors aujourd'hui, quand on crée un truc de ce genre, on passe par les réseaux sociaux. Donc on a créé un groupe qui existe toujours, qui d'ailleurs se porte très bien, qui s'appelle Décroissance conviviale au Québec sur Facebook, un groupe donc fermé, enfin partiellement fermé. Il faut demander son adhésion au groupe pour y participer. Donc ça, ça a été le point de départ. Les étudiants, une de leurs forces, c'est évidemment leur enthousiasme et leur générosité. Une de leurs faiblesses, c'est que une fois qu'ils ont fini leurs études, ils vont faire autre chose. En général, il faut déjà qu'ils gagnent leur croûte. Donc la suite du collectif a été plutôt prise en charge par d'autres personnes, dont Jérémy, dont je parlais tout à l'heure. Et à l'actif de ce collectif, il y a deux événements importants, donc en 2018 et 2019, qui sont les deux festivals de la décroissance qui ont été organisés. Donc à proximité d'une des universités montréalaises, donc dans un endroit lui-même assez intéressant, avec un mélange là aussi très intéressant à la fois de conférences, d'ateliers, etc., de démonstrations, de discussions. Donc quelque chose que je trouve assez réussi pour intégrer à la fois la dimension, je dirais, intellectuelle à la croissance, et puis des dimensions plus pratiques, plus incarnées dans des initiatives concrètes. Donc ça, ça fait partie des choses intéressantes réalisées par ce collectif. Les étudiants eux-mêmes, une partie d'entre eux, ont été embarqués dans un projet de série documentaire sur des initiatives concrètes au Québec que vous pouvez trouver sur Internet, qui s'appelle Changer de Cap. Donc ils sont partis avec leurs idées, visiter toutes sortes de choses un peu partout au Québec, des choses intéressantes dans une perspective décroissanciste. Voilà. Donc j'ai déjà parlé de Jérémy, qui a été vraiment une des chevilles ouvrières du collectif à cette époque-ci. Donc Jérémy, lui vient, contrairement aux historiques du mouvement, donc qui était plutôt du côté Sciences Po, philo, sociaux, Jérémy vient des sciences de l'environnement et de la vulgarisation scientifique. En fait. Aussi un apport tout à fait essentiel, même si ce n'était pas au cœur de son activité dans le collectif. Autre personnage important qui arrive dans le décor du mouvement à l'époque, c'est Philippe Gauthier, qui lui vient de Sciences Po, mais qui vient aussi du journalisme scientifique. Un assez bon vulgarisateur scientifique qui s'est spécialisé sur les questions énergétiques à partir de 2011, qui tient un blog qui s'appelle Écologie et énergie, je pense, ou Énergie et écologie, je ne sais plus dans quel... Non, Énergie et environnement, que vous trouverez sur Internet, qui est un, qui est un blog qui est très très, très consulté, y compris par un monsieur comme Jean Covici, qui suit ce que fait Philippe. Et Philippe a été pas mal impliqué dans un autre groupe Facebook qui s'appelle Transition 2030, que vous devez connaître, j'imagine. Il a été pendant longtemps administrateur de ce groupe. Et aujourd'hui, c'est pas mal lui qui tient les rênes de notre petit groupe de discussion des croissances conviviales au Québec. Enfin, petit qui compte quand même plus de 3 000 membres aujourd'hui. Voilà, on a aussi, dans la foulée de tout ça, essayé de continuer à organiser des réunions militantes autour de la décroissance. On appelait ça des croissants et des bières. Et mais ça a été arrêté par la pandémie. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à relancer ce genre d'activité plus militante. Voilà, ça c'était le troisième ou quatrième jalon. Plus récemment, donc 2020, la création du groupe de recherche indépendant Polémos. C'est donc une initiative qui vient de Jérémy Boucher, donc qui est là avec nous ce soir, et de Emmanuel Cacamo, qui est elle aussi une universitaire, qui par contre est plus impliquée dans le mouvement actuellement, qui part du constat qu'il y avait une espèce de masse critique intéressante de chercheurs qui s'intéressaient à la décroissance au Québec et à Montréal en particulier, donc il était peut-être temps de s'aventurer sur ce terrain-là pour essayer de produire en fait de la recherche rigoureuse sur la question de la décroissance pour l'offrir dans l'espace public au Québec. Donc c'est d'abord en tant que chercheur qu'on se positionne avec Polémos. Mais peut-être que Jérémy pourra en dire un mot tout à l'heure dans la discussion pour préciser la perspective. Un des intérêts de la création du groupe, ça a été qu'on a rallié une nouvelle génération. Donc là, je vous ai présenté un peu tous les vieux dont je fais partie. Jérémy est un peu entre les deux. Mais on a embarqué donc des jeunes. Alors Bastien, qui est un ingénieur. Et puis surtout, beaucoup de jeunes femmes aussi. Donc on s'est beaucoup féminisé, ce qui est plutôt une bonne chose aussi. Donc Ambre Fourier, dont j'ai dit un mot. José Provençal, Ambre actuellement est en doctorat de sociologie. José vient de finir un doctorat donc en sciences politiques, en pensée politique, et impliquée sur les questions énergétiques. Sophie vient aussi des sciences politiques. Elle est engagée dans une organisation écologique aujourd'hui. Estelle est ingénieure. Et puis la dernière, donc Noémie Bureau Civil, qui est notre coordonnatrice, qui elle, une espèce d'électron libre dont je parlerai encore tout à l'heure, qui est un personnage important actuellement dans le mouvement québécois. Donc voilà, ça s'ajoute, donc ces personnes plus jeunes s'ajoutent donc à celles que j'ai déjà présentées. Qu'est-ce qu'on trafique? On essaye de publier. On n'est pas sur les réseaux sociaux, mais on est sur Internet quand même. Difficile d'échapper à Internet, bien entendu. Donc, on essaye de publier des billets, des études, donc plutôt en fonction de l'actualité. Alors là j'ai mis en illustration un des derniers billets que nous avons publiés en réaction à ces articles dithyrambiques qui sont sortis au sujet de la fusion nucléaire pendant cet hiver, là, à propos d'une expérience qui avait été plus ou moins réussie dans un laboratoire américain. Donc voilà, typiquement le genre de choses qu'on essaye de faire. Là, c'est en plus un billet qui a été rédigé à trois, qui incarne bien ce qu'on tente de faire collectivement au sein de Polémos. Nous avons, pour donner encore un autre exemple, nous avons offert un cours collectif à l'UPOP cet automne, donc à l'Université populaire de Montréal, sur les précurseurs de la décroissance, avec un très gros succès. Les salles ont débordé pour venir écouter les différents cours qui ont été donnés donc sur les quelques grands précurseurs. On a actuellement aussi accès donc à un micro sur une radio montréalaise où tous les mois on va aller en fonction de l'actualité aussi, donner une perspective décroissanciste donc à l'antenne. Et puis là, on est en train de finaliser l'organisation d'un gros colloque sur la décroissance dans le cadre d'un congrès annuel de l'ACFAS. L'ACFAS est une association scientifique donc francophone à l'échelle du Canada qui organise un grand congrès chaque année. Et donc là, on aura deux jours de colloque organisés par nous donc sur la décroissance et la question du comment. Voilà typiquement le genre de choses que nous faisons au sein de Polémos, que nous tentons de faire. Absolument sans aucun moyen, parce que en fait, je suis le seul aujourd'hui qui suis vraiment payé pour faire mon boulot de chercheur sur la décroissance. Tous les autres bricolent comme ils peuvent pour faire exister ce collectif. On pourra en parler tout à l'heure. Voilà, ça, c'est les grands jalons que j'ai choisis. Donc, c'est sûrement partiel et partiel, comme je le disais tout à l'heure. J'ai sûrement oublié des choses et j'espère que si certaines personnes sont concernées, elles me le pardonneront. Alors, comment est-ce qu'on conçoit la décroissance? Donc là aussi, je vais m'excuser de mettre en avant mon petit livre, mais qui est, je le répète, vraiment l'aboutissement à la fois du cours que j'ai créé, mais ce cours étant lui-même finalement l'expression des discussions au sein du MQDC. Donc je crois que ça représente assez bien quand même les idées que nous défendons et la compréhension que nous avons de la décroissance. Et je mettrai l'accent sur quatre points. Fondamentalement, en fait, on va formuler trois grandes critiques de la croissance. Donc, il n'y a rien de spécialement novateur, mais c'est plutôt un travail de simplification, de clarification que j'ai tenté de faire. Donc, une critique de la croissance comme autodestruction, une critique de la croissance ou de la course à la croissance comme injustice, et une critique de la croissance comme aliénation. Voilà, en gros, les trois grandes critiques autour desquelles notre discours se construit. La question de la justice sociale a été présente d'emblée. Ce n'est pas quelque chose qu'on a rajouté. Quelqu'un comme Serge Mongeau, que j'évoquais tout à l'heure, est d'abord un militant pour la justice sociale avant même de se préoccuper d'écologie. Et je pense qu'on pourrait dire ça pour les autres fondateurs. Ce qu'on a ajouté, et ça c'est l'influence de Andréa Lévy dont je parlais tout à l'heure, c'est sur la question de la justice, la question de la justice animale. Ça c'est probablement un point sur lequel on se démarque de certaines approches décroissancistes françaises. Bon, là encore, je ne connais pas de près tout ce qui se passe en France, mais j'ai lu certains militants, certains intellectuels sur ces questions-là. Donc, on a, là, je pense qu'il y a une vraie divergence d'opinion avec certains Français sur cette question de la justice animale. Par ailleurs, au Québec, on est dans une situation très particulière. On est à la fois on est un pays du Nord, mais on reste aussi très largement une colonie, c'est-à-dire qu'on subit des politiques extractives extrêmement violentes. Alors, on ne le subit pas quand on est à Montréal comme moi, mais on le subit quand on vit au nord de Montréal. Et qui vit au nord de Montréal, c'est les populations autochtones, c'est les Premières Nations. Donc là aussi, ça nous positionne dans une perspective relativement originale, c'est-à-dire que le sud pour nous est au sud, oui, le sud global est au sud, mais le sud est aussi au nord en fait. Et donc, c'est quelque chose qu'on tente d'intégrer dans nos réflexions et dans nos recherches, et aussi évidemment dans nos actions militantes. Ça, c'est sur la question de la justice. Et puis, la troisième critique, la croissance comme aliénation, c'est probablement le point sur lequel, là aussi, on insiste le plus, en fait, dans nos approches. Donc, ça débouche sur une critique des technosciences qu'on pousse assez loin, et au nom donc d'une conception de la liberté défendue comme autonomie. Bon, alors, on se retrouve très bien dans l'approche de Aurélien Berland, dans son bouquin Inter et liberté. Donc, il met des mots sur des idées que nous défendons depuis un bon moment. Voilà. Alors ça c'est du côté critique. Un autre point majeur, c'est concernant le diagnostic. C'est finalement quand on cherche à répondre à la question pourquoi est-ce qu'on est embarqué dans cette course à la croissance, la réponse qu'on donne n'est pas du tout une réponse idéaliste. Et là, ça nous amène aussi à prendre nos distances par rapport à certaines positions de décroissants qu'on peut entendre, notamment venant de France, où la perspective est souvent plus idéaliste. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la décroissance est une espèce de malentendu, de mauvaise idée, on s'est fourvoyé, etc. Alors, à cette question-là, nous, on pense que non, ce n'est pas seulement une question de malentendu, c'est qu'il y a une forme de vie sociale fondamentale derrière tout ça, qu'on appelle capitalisme et qu'on appelle plus généralement civilisation industrielle, parce qu'on associe capitalisme, technosciences et état bureaucratique comme trois composantes d'une civilisation qui nous impose en fait cette course à la croissance aujourd'hui. Donc, je prétends pas du tout que ce soit original, mais c'est sûr que ça nous met en porte-à-faux avec certaines approches de la décroissance aujourd'hui qui sont plus idéalistes. en termes de propositions, donc plutôt le volet programmatique. Le premier volet, c'est le volet critique. Deuxième volet, c'est le volet diagnostic. Troisième volet, qu'est-ce qu'on propose ? Finalement, en réponse aux trois critiques fondamentales que nous formulons contre la croissance, nous proposons donc trois principes qui pourraient constituer les bases d'une espèce de feuille de route politique pour tenter d'aller vers des mondes post-croissance. Donc, si on tient à la question de la vie, à la justice, à la liberté, il va falloir produire moins, partager plus, décider ensemble. Donc ça, c'est le petit slogan que j'ai bricolé il y a quelques années pour essayer de résumer tout ça, puis qui marche assez bien, qui fait son chemin assez bien en tout cas au Québec, qui semble servir de point de repère à pas mal de gens qui tentent de s'engager vers la décroissance. Donc qui permet de faire le tri, notamment par rapport à certaines approches un peu confusionnistes aujourd'hui, comme celle de certaines approches de l'économie circulaire, par exemple. Avec le produire moins, on met les points sur les i, je dirais, par rapport à certaines approches à décroissance qui sont un peu ambiguës sur cette question-là. Évidemment, l'idée étant qu'il faut articuler les trois. Et quand on, alors, le décider ensemble, c'est à mon avis peut-être le plus essentiel. C'est à la fois donc un attachement à la démocratie, mais plus généralement donc à l'autonomie au sens fort du terme, au sens de Castoriadis notamment. Voilà. Donc, concrètement, en termes d'implication. Ça débouche à mon avis, alors ça c'est plus mon avis personnel, mais sur une défense d'une perspective de la subsistance, à la Maria Mise notamment, où, bon, il y a la française Geneviève Pruvot qui défend ça aujourd'hui, là on se situe bien dans cette perspective, une défense des basses technologies, une défense du communalisme à la fois comme mouvement en faveur des communs, mais aussi en faveur du municipalisme, donc de la municipalité autonome comme instance politique fondamentale d'un monde post-croissance. Et puis, je suis en train d'explorer un peu l'idée de biorégionalisme, donc en faisant bien attention, évidemment, à en faire, à lire et à défendre cette idée dans une perspective ouverte, contrairement à certaines interprétations. Voilà, on a des dispositifs juridiques au Québec qui peuvent nous aider un peu à soutenir cette perspective communaliste. Pas tellement sur le plan municipal, parce que les municipalités ont encore moins de pouvoir au Québec qu'elles en ont en France. Par contre, on a notamment un véhicule juridique qui s'appelle les fiducies d'utilité sociale, qui est une façon de placer des biens, des richesses sous un régime non marchand, qui est très, très intéressant. Donc ça fait partie des petits outils qu'on peut essayer d'utiliser et qu'on essaye déjà pour créer des communs. Et on a aussi quelque chose qu'on appelle les coops de solidarité. Alors je crois qu'il y a des équivalents en français, mais je ne connais pas l'appellation en France. Mais ces coops de solidarité, c'est une façon d'aller un peu plus loin que la coopérative de base, en s'approchant plus d'un modèle vraiment communaliste où on met ensemble toutes les parties prenantes donc d'une initiative concrète, pas seulement les producteurs ou pas seulement les usagers, mais on met tout le monde ensemble. Voilà pour un petit aperçu du genre d'outils qu'on peut essayer d'utiliser. Alors voilà, ça c'est la perspective générale qu'on défend, en tout cas que je défends, puis je crois pouvoir dire que c'est à peu près l'approche sur laquelle on se situe en général dans le mouvement au Québec, en tout cas à Montréal. Troisième et dernier point, où est-ce qu'on en est ? Ben, je dirais que ce qu'on constate, c'est que la décroissance a bien meilleure presse maintenant qu'elle n'en avait il y a 15 ans quand on a commencé. Quand on écrit aux médias, on arrive en général à se faire publier. On a même eu à l'équivalent du journal de 20 heures au Québec cet hiver, un débat pour ou contre la décroissance. La première fois que dans le cadre de ce journal, on avait ce débat-là. Bon, on n'avait pas forcément la personne idéale pour défendre la décroissance qui était là, mais voilà, c'était quand même un point assez important. On voit des nouveaux collectifs décroissancistes qui se constituent un peu partout au Québec aujourd'hui, dans des petits villages, dans des plus grandes villes. Alors, le plus important actuellement, c'est dans la ville de Québec, qui a d'ailleurs organisé son festival de la décroissance l'an dernier. Il y a notamment un monsieur qui s'appelle Laurent Mété à Québec qui fait un énorme, très beau travail sur ce terrain-là. Mais on a aussi des collectifs dans des coins beaucoup plus ruraux. Je pense dans le coin de Charlevoix notamment, dans le coin de Val-David, où on a des collectifs qui sont constitués. On voit les mouvements écologistes qui se rallient plus en plus à l'idée de décroissance. Alors, de gaieté de cœur, c'est pas toujours. C'est, chez certains, c'est un peu contraint et forcé parce qu'ils se rendent compte qu'il va falloir prendre ce virage. Parce qu'un certain nombre de grosses organisations écologistes, pour l'instant, étaient très, très, très opposées à la décroissance, mais c'est en train de bouger. Dans le milieu des affaires aussi, on commence à voir les gens qui s'y intéressent, notamment dans le milieu des PME, hein, où on a des gens qui ont de plus en plus de mal en fait à générer de la croissance et donc finalement commencent eux-mêmes à douter du modèle dans lequel ils sont. C'est marginal, mais c'est présent. Enfin, je me fais inviter, je me fais inviter aujourd'hui dans les milieux d'affaires par des gens cravatés. Bon, c'est ce qui était quand même très nouveau parce que bon, les premières années, j'étais tout le temps devant des barbus, chevelus, un peu hippies. Non, maintenant, il y a du monde qui a de l'argent et qui s'intéresse à cette question. Bon, pourquoi ils s'y intéressent, ça reste un peu à clarifier, mais il y a au minimum une curiosité. Au niveau de l'enseignement et de la recherche, c'est aussi en plein développement. Ça me permet de souligner le travail de trois collègues qui sont des artisans là, importants du mouvement de la décroissance au Québec aujourd'hui. Je pense à ma collègue Bengi Akbulut qui travaille à Concordia en géographie. C'est une économiste, mais qui est dans un département de géographie, qui est très en lien avec notamment la bande de chercheurs de Barcelone. Donc elle s'est formée en partie avec eux. Donc elle est davantage insérée que moi dans le champ de la recherche universitaire décroissanciste internationale. Éric Pinault est aussi pas mal proche d'eux. Éric, lui, il travaille à l'UQAM, à l'Institut des sciences de l'environnement. C'est un sociologue et économiste. C'est aussi un travail très important, très solide, un travail de fond. S'intéresse actuellement beaucoup, beaucoup à la question du métabolisme social. Bah, il aborde la question de la critique de la croissance à partir de là. Et Jonathan Durand-Folco, qui s'est fait connaître notamment pour un bouquin sur le municipalisme, qui s'appelle « À nous la ville », qui lui travaille dans une toute petite université à Ottawa, l'Université Saint-Paul, et qui fait aussi tout un travail très proche de ce qui nous intéresse sur la décroissance. Et puis, on a eu donc une première candidature ouvertement, explicitement décroissanciste aux dernières élections fédérale, donc il y a maintenant un peu plus de 2 ans, par Noémie Bureau-Civil, qui est aussi la coordinatrice de Polemos et qui doit se cacher quelque part derrière une des étiquettes que j'ai devant moi. Donc on pourra éventuellement la questionner tout à l'heure. Donc Noémie s'est présentée alors, vraiment sans aucun moyen. Non pas qu'elle manque pas de moyens personnels, donc elle a beaucoup d'intelligence, beaucoup de force, mais par contre aucun moyen matériel, et a fait un score tout à fait significatif, suffisant pour inquiéter notamment le grand parti de gauche dont je parlais tout à l'heure, Québec solidaire. Donc voilà, donc ça c'est les relativement bonnes nouvelles du mouvement actuel. Bon, évidemment, je termine sur des nuances, avec cette belle image donc en l'honneur du Green New Deal. Je pense que il faut quand même pas trop il faut pas trop 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 s'extasier. Nous restons très minoritaires. On est certainement moins marginaux qu'avant, mais on reste très minoritaires, et notamment parce que l'idéologie du progrès demeure très très puissante ici. Il faut réaliser qu'on est en Amérique du Nord, donc il y a des affinités entre le Québec et la France, mais il y a aussi des affinités très fortes entre le Québec et l'Amérique du Nord en général. Donc s'il y a bien un monde où on croit encore à ce modèle, c'est aussi au Québec. Donc, et ce modèle, bon, quoi qu'on en dise, fonctionne encore, c'est-à-dire qu'il arrive encore à peu près à fournir aux gens de quoi vivre, de quoi se réjouir et penser à autre chose. Donc ça, c'est quand même ce sur quoi on bute en priorité. Ce qui explique aussi que nos alliés politiques objectifs restent très frileux. Donc, du côté des ONG écologistes, ils s'avancent un peu de notre bord, mais ça reste encore très prudent. Du côté des partis politiques, donc Québec solidaire prend bien soin officiellement de se tenir loin de nous, même si un certain nombre de ces cadres sont proches de nous, en fait, sur le fond. Donc là, il y a tout un jeu avec Québec solidaire dans lequel, pour l'instant, on est encore pris, et pour l'instant, c'est eux qui gagnent. Je pense qui servent de nous comme épouvantail, en fait, hein, pour apparaître plus crédible, plus sérieux aux yeux de la population. Évidemment, avec tout ça vient des tentatives de récupération, de confusion. Donc, il y a toutes sortes. L'intérêt grandissant pour la décroissance fait que un certain nombre de nos adversaires historiques vont essayer de se rapprocher de nous, donc en vidant d'une partie de son sens l'idée de décroissance, et notamment sa dimension anticapitaliste. Donc là, ça c'est une des difficultés auxquelles on fait face. Et puis bon, bah, tout ça fait que par ailleurs, on manque de moyens. Donc, enfin, c'est à la fois une cause et une conséquence de ce que je viens de ce que je viens d'évoquer. Donc, on reste très petit en fait et très en manque de moyens pour faire avancer ces idées. Je soulignerai un dernier point. C'est quelque chose sur lequel on bute depuis pratiquement les débuts. C'est que il y a beaucoup de personnes qui vont venir vers nous, qui vont être intéressées par nous, mais qui vont être assez frustrées parce que effectivement l'essentiel de notre activité reste une activité de sensibilisation, une activité intellectuelle. Et donc, on a des gens qui voudraient agir et à qui on n'a pas les moyens d'offrir des possibilités de s'engager de manière plus concrète et peut-être moins intellectuelle. Alors, les questions qui se posent, est-ce qu'on va finir par créer un parti? C'est une question dont on discute, dont on pourra discuter à l'instant. De mon côté, j'aimerais bien essayer de créer un vrai programme de formation sur la question de la décroissance, comme ils l'ont fait maintenant à Barcelone. Un des gros enjeux, par ailleurs, c'est justement de recréer un vrai collectif militant aussi à Montréal, mais plus généralement au Québec, sur la décroissance. Là aussi, on s'interroge sur la manière de procéder. Alors voilà, j'ai fini, j'ai tenu 45 minutes. Voilà. Donc merci beaucoup de votre attention.